Voilà, bonjour à chacun, chacune. Cette semaine, pour nous préoccuper, nous avions deux événements. Un que nous n'attendions pas, mardi. Un qui était attendu par une grosse partie de la population et qui s'est passé à Rome. Je ne vais pas m'étendre sur l'événement de Rome, l'élection de l'évêque de Rome, mais m'intéresser plutôt à ce que nous n'attendons pas dans nos parcours et qui parfois, comme l'a témoigné notre sœur tout à l'heure, bouchonne un peu notre route. Nous pensons que nous sommes sur la route pour le ciel, n'est-ce pas? Que nous avons notre ticket, que nous sommes bien partis. Et puis, d'un seul coup, la visibilité se raccourcit. La route devient glissante. J'étais à Draveil, mardi soir, essayant de rentrer à la maison. Et ce qui était intéressant, d'un seul coup, j'ai vu la voiture qui était devant moi glisser vers la droite. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, j'ai senti ma voiture faire de même. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, je ne bougeais pas, mais la route était penchée, et c'est là qu'on s'aperçoit des défauts de la route. On s'aperçoit que la route n'est pas plate, mais qu'elle est inclinée. Et donc, la voiture glissait tout simplement à l'arrêt, en direction du trottoir. Et spirituellement, j'ai trouvé qu'il y avait un beau parallélisme. À savoir que quand on bouge pas, souvent on glisse. Et donc, en tant que chrétien, on a besoin de toujours avancer. Parce que l'immobilisme, l'arrêt, nous amène souvent à glisser. Alors ce matin, j'aimerais regarder avec vous quelques versets dans le prophète Ésaïe. Pour regarder ce qu'a fait ce prophète et quelles leçons nous pouvons, nous, chrétiens, tirer pour, quand nous sommes dans les tempêtes de neige, nous confier en Dieu. J'aimerais aller au chapitre 6 du livre d'Ésaïe, dans les versets 1 à 4, verset bien connu. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 4, Ancien Testament. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. La première chose que j'aimerais dire à la lecture de ce passage, la première chose qui nous vient quand on a un incident, quand on ne contrôle plus la situation, c'est « Dieu, t'es où ? Tu m'as abandonné dans la neige ?» La première chose que le prophète dit là dans le chapitre 6, c'est que Dieu est vivant. Nous avons un Dieu vivant qui n'est pas atteint par la neige. Et ici, le texte dit que c'est l'année de la mort du roi Ozias. Le roi est mort, mais Dieu est vivant. Le psaume 90 au verset 2 nous dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu. » Dieu était le Dieu vivant. Et pour donner un petit peu de piment au message, je dirais, il était présent lors du Big Bang, qui a permis à ce monde d'exister. Il a provoqué ce Big Bang. Dieu créa. C'était un Big Bang. Il était le Dieu vivant lorsque les hommes sont passés par les épreuves. Il était le Dieu vivant lorsque les hommes au cours des siècles ont annoncé la mort de Dieu. Tout comme Ozias. Ils sont morts, mais notre Dieu, lui, est vivant. l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur. Pas un seul chef d'État ne sera présent dans les 50 prochaines années. Ils seront tous renouvelés, les autorités terrestres. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, si le Seigneur n'est pas revenu, Dieu lui existera toujours. Dans seulement 110 ans, la majorité des gens qui peuplent la terre d'aujourd'hui auront donné naissance à une nouvelle génération. Parce que Dieu existe. Non pas parce que les hommes meurent, mais parce que Dieu existe. Nous allons quitter cette terre. Nous ne sommes pas appelés pour rester sur cette terre. Nous sommes appelés pour aller au ciel. Ça, c'est la destination initiale que Dieu nous donne. Mais quelqu'un a mis une tempête de neige sur notre plan initial, ou sur le plan initial de Dieu, et nous a fait déraper. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin de reprendre cette route, et le seul qui a pu nous ramener sur cette route, c'est Dieu. Dieu n'a jamais eu de début, et son existence ne dépend pas des intempéries. Ne dépend pas de ce que nous croyons ou de ce que nous sommes. La deuxième chose que le prophète Ésaïe dit dans ce texte, c'est qu'il est autorité. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Aucune vision du ciel n'a permis de voir Dieu labourer un champ. Aucune vision du ciel nous a montré Dieu en train de couper de l'herbe, de faire briller nos chaussures, de remplir des dossiers, de charger un camion. Le ciel n'a pas cela. Dieu n'est jamais à bout de force dans son royaume. Il est assis sur son trône, en paix, en position d'autorité. Le trône, c'est son droit de contrôle sur le monde. Nous ne donnons pas autorité à Dieu sur nos vies. Il l'a. Avec ou sans notre accord. Quelle folie, de vouloir agir comme si nous avions un droit quelconque à remettre à Dieu ce qui lui appartient. De temps en temps, nous avons besoin d'entendre ces paroles. Soyons clairs, Dieu peut faire tout. Je cite quelqu'un, Steve Owens, que vous ne connaissez pas. Il dit, soyons clairs, Dieu peut faire tout ce qu'il veut, et d'ailleurs il le fait très bien. À partir du moment où il veut, tout est fait à l'instant et bien fait. Dieu agit constamment. Rien n'existe en dehors de ce qui a été créé. S'il ne créait pas, il n'y aurait aucun être vivant. L'homme essaye de se convaincre qu'il ne vient de rien. C'est moi, je trouve la philosophie extraordinaire. On vient de rien et on va nulle part. Ça, c'est un encouragement pour les jeunes, n'est-ce pas? Tu viens de rien, tu vas nulle part, et au milieu, tu es dans le néant. Et tu as une visibilité de 5 mètres. Peu de choses ont le pouvoir de nous rendre aussi humbles, de savoir que notre Dieu, lui, agit. Peu de choses nous permettent de saisir ce qu'est la majesté, son autorité, en dehors de l'affirmation de la vérité que Dieu est l'autorité suprême, la cour suprême, le grand législateur, l'autorité exécutive. Après lui, aucun recours possible. Vous savez, sur cette terre, on veut toujours un recours. On va à la cour d'appel, parce qu'on n'est pas content du jugement. On remet en cause les juges. Et l'homme, depuis l'origine, remet en cause l'autorité de Dieu. Et pense qu'il a autorité sur Dieu. Le texte ici nous dit que Dieu est assis sur son trône et que personne ne peut le détrôner. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous, donc Dieu est vivant, Dieu est autorité, Dieu est tout-puissant. Le trône de son autorité, par contre, n'est pas un trône parmi d'autres. Il est le plus élevé. Le texte nous dit ce matin, « Je vis le Seigneur assis sur son trône, il était très élevé. » Le trône de Dieu est le plus élevé de tous, ce qui signifie que l'autorité de Dieu est supérieure. Aucune autorité adverse ne peut annuler les décrets de Dieu. Il accomplit ce qu'il a décidé de faire. Ésaïe 46, verset 10, le même prophète dit ceci en rapportant les paroles de Dieu. « Mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. » Ça ne peut pas être notre cas. Le prophète Daniel, au chapitre 4, verset 35, dit « Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux, avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main. » Waouh ! Nous ne sommes pas des marionnettes dans la main de Dieu. Si vous êtes en train de vous dire « Jean-Claude, il est en train de nous montrer un Dieu qui fait ce qu'il veut avec nous », non. Mais Dieu agit dans nos vies pour notre bien, la Bible dit. Pour que nous soyons heureux, pour que nous ayons de l'espérance, pour que nous ayons de l'amour, pour que nous soyons comme lui avait initié dans son plan. Mais nous voulons nos plans. Et nous pensons que nos plans sont bien meilleurs que les siens. Oh, la vieille génération, vous savez, le conflit des générations. Ce qui était bien pour nous n'est pas si bien pour nos jeunes, n'est-ce pas? Ça, c'était, c'est papy, c'était avant. Ça, c'était de ton temps. Et souvent, quand on regarde Dieu, ce Dieu qui existe depuis, il doit être vieux quand même. Il a un peu démodé, des fois un peu réformé. Non, mes amis, il est tout puissant. Il agit comme il lui plaît. Le fait d'être saisi par son omnipotence, le fait qu'il puisse tout, ou la souveraineté, nous fait admettre que Dieu est merveilleux. On va le dire ensemble. Dieu est merveilleux. Amen. Vous le dites vous-même. Quand il est pour nous, Dieu est merveilleux quand il est pour nous. Et quand il est contre nous, alors il est terrifiant, mes amis. Et vaut mieux être dans son équipe, non, que dans l'équipe du diable. Mais il faut décider un moment. Si nous sommes indifférents à sa toute-puissance, c'est simplement que nous ne l'avons pas vu. Et moi j'aime ce chapitre 6 d'Ésaïe, parce qu'il est dit que là, il a vu Dieu. Et Dieu était assis sur son trône. Dieu n'était pas un idole avec ses oreillettes dans les oreilles, avec son tatouage sur le dos, avec un blouson sur le dos qui dit « Maman, je t'aime », pour ceux qui connaissent certaines chansons. L'autorité souveraine du Dieu vivant est un refuge rempli de joie, de puissance pour ceux qui gardent son alliance et ceux qui aimeraient revoir le message de la semaine dernière sur l'alliance. Cette alliance qui est symbolisée par le couple. Hein. Combien on a rompu l'alliance? Combien on est prêt à rompre les alliances qu'on fait? Alors que l'alliance de Dieu, le mot grec, hein, on ne peut pas la rompre. Une fois qu'on l'a scellée, Dieu nous aide à la garder. Dieu est autorité, Dieu est tout-puissant. On l'a vu au début, Dieu est vivant. Quatrième point, il est resplendissant. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Il n'en avait pas 50 mètres, simplement, c'était resplendissant. On voit souvent, on se rappelle, le mariage. La traîne de la mariée qui couvre les marches de l'estrade. quelle signification aurait une traîne qui remplirait des allées, couvrirait des places des invités de la chorale et serait constituée d'une seule pièce de tissu? Le fait que le manteau de Dieu remplisse le temple ou illumine le temple. Nous avons un Dieu qui est incomparable. On a dit tout à l'heure qu'il était merveilleux. Et on a un Dieu qui est resplendissant, incomparable. Qu'est-ce qu'on veut nous faire aujourd'hui? Nous faire des comparaisons, des sondages. J'écoute souvent à RMC le matin, Radio Monte Carlo, et ce qu'ils aiment bien, c'est des sondages. Parce que je me demande ce qu'ils font à vrai avec, mais au moins ils en font. Et ils annoncent que 70% des gens sont pour, sont contre. Que celui qui parle a réussi à gagner la confiance des auditeurs. Mais une fois que l'émission est terminée, le sondage va dans son bureau. Vous savez que quand Dieu a créé la terre, et quand il a créé les poissons, vous avez déjà vu la multitude des poissons ? Il n'y a pas que des poissons rouges, il n'y a pas que des sardines dans l'eau. Sardines, moi je les vois souvent plus en boîte que dans l'eau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a créé une multitude dans toute sa création. Certains poissons ont un nez fluorescent. D'autres ont des lampes sous leurs yeux. Il existe des milliers de poissons différents qui vivent dans les profondeurs des océans où personne ne peut les voir ni s'émerveiller. Mais ça, c'est pour ceux qui vont au fond. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a créé des hommes et des femmes différents et qui ont une beauté rayonnante à l'intérieur créée par Dieu. Sauf que pour l'instant, elle a été mise sous couvert par le péché. Elle a été éteinte par l'aspect rayonnant du diable qui a réussi à nous séduire. Mais ce que Dieu a créé, c'est quelque chose de merveilleux. L'homme et la femme sont des créatures merveilleuses à la base. Entachées par le péché maintenant, touchées par la maladie inéluctable, condamnées à mort. Vous savez, dans cette bagarre, cette lutte que le monde met en place pour lutter contre la peine de mort. On veut épargner tous les brigands de la terre. Je ne vais pas ouvrir un débat ici. Mais en même temps, on veut bien éliminer les enfants par les IVG. On veut bien éliminer les personnes âgées par l'euthanasie. Ça s'appelle comment ça ? C'est une condamnation à mort. Mais c'est l'homme qui décide. Les personnes âgées ne servent plus à rien, éliminons-les. Les enfants ne sont pas désirés, éliminons-les. Mais gardons les brigands dans les prisons. Est-ce que c'est une justice ? Est-ce qu'on demande l'avis aux enfants s'ils veulent vivre ? Est-ce qu'on pose la question aux personnes âgées s'ils veulent continuer à vivre ? Les bien portants décident que les moins bien portants disparaissent. C'est pas la façon de faire de notre Dieu. Dieu a créé le monde pour que l'homme soit sauvé. Dieu a créé le monde pour que l'homme et Dieu puissent avoir vivre en communion. Regardez la création. Quand Dieu a créé le monde, il a dit, voilà, je vous mets dans un grand champ de chaume. Il y a des pics, des rocs, c'est moche, il n'y a rien. Il fait très très chaud, vous allez voir. C'est pas la description du texte. Dieu a créé quelque chose de merveilleux. Mais avant que nous puissions comprendre que l'homme a créé des choses merveilleuses, nous avons besoin de réaliser qu'il est merveilleux. Qu'il est autorité, qu'il est puissant. Et même, point 5, il est révéré. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Personne ne sait quelles sont ces étranges créatures parées de 6 ailes, de pieds, d'yeux et d'intelligence. Ils n'apparaissent pas un autre endroit de la Bible, en tout cas pas sous le nom de séraphin. Étant donné la grandiose de la scène, la puissance des armées des anges, nous ferions mieux de ne pas imaginer ce que ça peut être. Mais la vision qui nous est donnée, c'est l'adoration de Dieu. Notre vie est faite pour avoir une relation avec notre Dieu, pas une religion. Religion, c'est fait par les hommes. C'est les hommes qui décident, et pour certains, c'est l'évêque de Rome qui décide où les gens doivent aller. C'est pas les hommes qui décident d'envoyer les gens au ciel. C'est Dieu. Et pour ça, on l'a vu la semaine dernière, et je vais le rappeler quand même, c'est lui qui a payé le prix. Nous avions fait fausse route. Il a envoyé le service de déneigement, même de nuit. Il a envoyé l'assistance, même de nuit, pour nous permettre d'aller au ciel. Il a enlevé l'étape la plus dure à franchir, le prix, en donnant son Fils. Dieu est révéré. Selon le verset 4, lorsqu'on voit la fondation du temple, le temple tremble. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui révérons Dieu, dont la vie montre que nous révérons Dieu? Ou est-ce que nous parlons de Dieu? Ou est-ce que nous avons une idée de Dieu? Et ce matin, si on dit « il a un trône très élevé », on peut l'imaginer très lointain, n'est-ce pas? Mais Dieu nous a donné un outil, l'Esprit, pour être en lien avec lui. Son Fils, pour nous ramener sur le bon chemin, et son Esprit pour rester en contact avec lui. Dieu n'est pas ce Dieu éminemment loin, un Dieu créateur. Et regardez bien, les anges s'humilient devant leur Père. L'arrogance de l'homme, qui veut prendre autorité sur l'homme, qui veut prendre autorité sur la création, qui veut prendre autorité sur le droit de vie et de mort, c'est se mettre à la place de Dieu lui-même. Nous ne sommes pas Dieu. Sixièmement, j'aimerais voir que Dieu est saint. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». C'est quoi la sainteté? La sainteté nous amène à nos limites, à partir desquelles l'expérience qui est avec Dieu dépasse tout mot possible. Dieu est saint signifie que Dieu est Dieu. La racine de saint, c'est coupé, séparé. Quelque chose de saint est séparé de ce qui est commun ou ce qui est séculier. Nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Les objets des personnes terrestres sont saints lorsqu'ils se distinguent du reste du monde. La Bible parle de la terre sainte, Exode chapitre 3, verset 5. De la sainte convocation, dans Exode 12, verset 16. Du saint sabbat, Exode 16, 23. De nations saintes, dans Exode 19. Des vêtements sacrés, dans Exode 28. De la ville sainte, dans Néhémie 11. De la parole sainte, dans le psaume 105, verset 42. Des saints hommes, dans 2 Pierre 1, 21. On en a parlé vendredi. De saintes femmes. Il fallait le noter, 1 Pierre 3, 5. Des saintes écritures, dans 2 Timothée 3, 15 et 16. Des mains saintes, dans 1 Timothée 2, 8. D'un saint baiser, Romains 16, 16. D'une sainte foi, dans l'épître de Jude, au verset 20. Presque tout peut devenir saint, s'il est séparé de ce qui est commun. Mais remarquez ce qui se passe lorsque cette définition est appliquée à Dieu lui-même. De quoi Dieu doit-il être séparé pour devenir saint? Le seul fait que Dieu est Dieu signifie qu'il est séparé du monde. il est séparé de tout ce qui n'est pas Dieu. Il y a un abîme entre le Créateur et sa créature. Dieu est unique, une classe par lui-même. Il est totalement saint. Mais nous n'avons rien fait d'autre ici que de dire que Dieu est Dieu. Si la sainteté d'un homme vient du fait qu'il est séparé des autres et voué à Dieu, à qui Dieu a-t-il voué sa sainteté? À personne. À lui-même. Il est un blasphème, écoutez bien, de dire qu'il existe une réalité au-dessus de Dieu, à laquelle nous devons nous conformer pour devenir saints. Dieu est la réalité absolue, au-dessus de laquelle il n'existe rien d'autre que davantage de Dieu lui-même. Exode 3, 14, « Je suis celui qui suis ». Son être, son caractère sont totalement indéterminés en dehors de lui-même. Il n'est pas saint parce qu'il respecte les règles. Il est celui qui a écrit les règles. Dieu n'est pas saint parce qu'il respecte la loi. La loi est sainte parce qu'elle révèle un Dieu qui est Dieu. Dieu est absolu. 1 Samuel 2:2, si vous voulez lire avec moi. 1 Samuel 2:2. On va regarder quelques textes. Samuel 2:2. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y en a point d'autre que toi. Quels sont nos autres dieux? Dieu travail, Dieu argent, Dieu sexe, Dieu vacances. On en a des dieux. Le prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 25. Ésaïe 40. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. À qui me comparez-vous? Au Dieu de ce siècle, avec un petit dé? Au Dieu qu'on imagine? Au Dieu qu'on voudrait qu'il soit? Le prophète Osée, au chapitre 11 et au verset 9. Si vous pouvez tourner trouver cette référence. Osée 11:9. Je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Sa sainteté, son essence est totalement unique. Elle détermine tout ce qui est et tout ce qu'il fait et n'est déterminée par personne. Sa sainteté correspond à qui il est et que personne n'est ou ne sera jamais. Vous pouvez appeler cela majesté, divinité, grandeur, valeur, perle, Dieu. Les paroles finissent par manquer. Nous avons navigué jusqu'aux limites du monde avec ce mot saint dans le silence total. Et le prophète Habacuc. Chapitre 2, verset 20 dit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. » Que toute la terre fasse silence. Il est Habacuc, chapitre 2, verset 20, pour ceux qui prennent des notes. « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. » Un Dieu qui est révéré, un Dieu dont, pour se tenir dans sa présence, ça devient tellement difficile. Ce Dieu-là a ouvert la porte pour que nous ayons une relation avec lui. Vous imaginez? Un Dieu tellement grand, tellement puissant, qui n'a pas besoin de nous? Si Dieu avait voulu être tranquille, est-ce qu'il nous aurait appelé? Si Dieu ne voulait pas que son téléphone sonne en permanence, il n'a pas besoin du numéro de téléphone, il sait qui c'est. Point 7. Dieu est glorieux. Avant de connaître le silence, le tremblement, les fondations, la fumée qui cache toute chose, nous apprenons une septième et dernière chose. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. La gloire de Dieu est la manifestation de sa sainteté. La sainteté de Dieu est l'incomparable perfection. Dieu est parfait. Parfait de sa nature divine, de sa gloire. Dieu est glorieux signifie la sainteté de Dieu publiée, annoncée, révélée. Sa gloire est la révélation du secret de sa sainteté. Lévitique nous dit au chapitre 10, au verset 3, « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Approchez-vous de moi. Vous qui me cherchez d'un cœur sincère, que dit la Bible ? Et je vous fermerai la porte ? Et je vous interdirai l'accès ? Celui qui me cherche avec un cœur sincère me trouve. J'ouvre à celui qui frappe. Lorsque Dieu se montre saint, nous voyons sa gloire se manifester. La sainteté de Dieu est sa gloire cachée. La gloire de Dieu est la sainteté révélée. Lorsque les séraphins disent « Toute la terre est remplie de sa gloire », c'est parce que depuis les hauteurs célestes, on peut voir la fin du monde. Ici-bas, la vision que nous avons de la gloire de Dieu est limitée, n'est-ce pas ? Mais elle est limitée en grande partie à cause de nos préférences, aux fioritures, aux aspects, aux écoutes. Nous sommes que ceux qui conduisent une voiture. Vous vous rappelez au début de... Enfin, vous vous rappelez pas, non ? Parce que vous n'avez pas vécu ça, mais les vieilles voitures avaient des lanternes à l'extérieur, de chaque côté. Le seul problème, c'est que ces lanternes éclairaient les côtés et pas le devant. Et donc, c'était un petit problème pour rouler. Et en plus, pour que ça brûle, il fallait du gaz. Tant que notre visage est entouré de lumière artificielle, le ciel au-dessus de nous est vide de gloire. Mais si un vent de grâce souffle, nos lumières terrestres, alors éclairent nos ténèbres. Le ciel de Dieu est rempli d'étoiles. Vous avez déjà marché un soir rempli d'étoiles ? Dieu éclaire mieux la terre que nos lumières à nous. Et on peut toujours mettre de la lumière sur les côtés. Ça n'éclaire pas notre chemin. Mais l'avantage de pouvoir marcher en confiance avec Dieu, de pouvoir avancer dans nos 5 mètres de vision, c'est de savoir que Dieu, lui, est en contrôle de notre vie. Alors on peut avoir des tempêtes, mes amis. On peut avoir des choses qui nous surprennent. Mais si on n'est pas prêt à faire confiance à Dieu, si notre vie devient tellement difficile qu'on en a perdu le contrôle, que d'un seul coup on glisse même sans bouger, peut-être comme le prophète Ésaïe, on peut dire « Seigneur, me voici ». Un jour, Dieu soufflera et détournera toute gloire en compétition avec la sienne, fera connaître sa sainteté dans sa splendeur à chaque créature. Mais il n'est pas besoin d'attendre. Job, Ésaïe, Abraham, Moïse, Saul de Tarse, et même certains d'entre vous, certains d'entre nous, se sont humiliés pour chercher la faveur du vrai Dieu. Pour entrer en contact avec ce grand Dieu, il faut déjà reconnaître que je ne suis pas digne d'aller dans sa présence. Que mon chemin ne mène qu'à la mort. Et que peut-être, comme notre frère tout à l'heure, je suis épargné par cette mort. Parce que Dieu agit. Mais si on ne le réalise pas, si on dit « c'est la chance », quelle chance ! J'aimerais, pour terminer, nous amener à considérer la gloire de Dieu. Quand l'incident arrive, quand l'événement arrive, Dieu n'a plus cette révérence. Dieu nous protège d'une nuit à l'hôpital, Dieu nous protège d'un accident, mais que se passe-t-il quand il y a l'accident ? Est-ce que Dieu a perdu le contrôle ? Est-ce que Dieu ne peut pas être révéré si je suis à l'hôpital, si je passe par la souffrance, si je passe par le chômage, si je passe par la crise ? un tiers de notre planète, vit dans la disette, dans la cruauté, dans la mort tous les jours. C'est l'endroit où il y a les églises les plus fortes. Un deuxième tiers de notre planète vit souvent sous des régimes autoritaires, souffre, les églises sont fortes. Alors ma question, c'est de savoir, nous qui avons des libertés, à qui Dieu fait grâce d'avoir la liberté de lire la Bible, la liberté d'entendre parler de l'Évangile, la liberté de nous tourner vers lui, la liberté d'être gardés dans la tempête. Comment se fait-il que nous sommes des chrétiens faibles? Des chrétiens qui ne voient pas la révérence de Dieu, qui ne voient pas tous ces aspects de Dieu et qui disent « Mais ce Dieu incroyablement saint, comment est-ce que je peux mieux le connaître pour mieux avancer ?» Jérémie 29 dit ceci, « Alors vous m'invoquerez, vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. » De tout votre cœur. Quelqu'un a dit ceci, « Le manque de foi place des obstacles entre Dieu et nous, tandis que la foi place Dieu entre nous et les obstacles de notre chemin. » Je ne sais pas qui l'a écrit, mais en tout cas, j'ai trouvé que cette phrase était importante. Vous me chercherez de tout votre cœur. Que comme peut-être nous puissions relire à la maison ce prophète Ésaïe et de dire qu'est-ce qui a déclenché le fait qu'il a voulu marcher pour Dieu, parce qu'il a vu qui était Dieu. Et nous avons besoin de voir vraiment qui est notre Dieu. Il est temps de prendre notre relation avec Dieu au sérieux, de lever les obstacles, examiner mon cœur à la lumière de la parole de Dieu et laisser l'Esprit mettre le doigt sur ce qui bloque. Car Dieu est en contrôle et il a un grand plan pour chacun d'entre nous. Amen. C'est pas ça.